de la main de l'artisan de paix avec moi. C'est une manière de se souvenir en fait des différents éléments que nous pouvons apprendre à connaître dans la parole de Dieu pour les relations les uns avec les autres. Vous vous souvenez d'ailleurs que la main a un poignet qui la relie au corps. Vous avez déjà tous vu votre main, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si notre main n'est pas reliée au corps, notre main est inutile. Ne la coupez pas pour essayer, mais vous pouvez simplement l'imaginer. On la pose là, elle sera inutile. Et bien de même, tous ces outils que nous voyons ensemble, s'ils ne sont pas basés, encouragés, branchés à l'évangile, à l'œuvre de Christ, à la rédemption, eh bien ce sera inutile ou peut-être même pire. Donc on a vu que la main, non seulement elle a un poignet, mais elle a des doigts. Et chaque doigt nous permet de nous souvenir des différents éléments. Donc on en a déjà vu plusieurs ensemble. Donc si je vous dis le premier doigt, la première attitude ou le premier réflexe qu'un artisan de paix devrait avoir, c'est quoi? Rendre gloire à Dieu, exactement. Rendre gloire à Dieu. On avait vu ça ensemble, donc là, chaque fois un texte biblique accompagne cela, je vous encourage à les connaître par cœur. 1 Corinthiens 10, 31 qui dit... Vous avez compris, hein? Voilà, ça donc que vous mangiez, ça que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà. Vous pouvez même le faire en geste, c'est pas mal. Donc ça, c'est le premier réflexe à avoir. En toutes circonstances, même dans les conflits. Ou peut-être particulièrement dans les conflits. Comment est-ce que je peux glorifier Dieu là, maintenant, dans cette situation? Bon, c'est peut-être facile sur les chaises dimanche matin. Ça l'est peut-être un peu moins à midi, lorsqu'on aimerait recevoir quelque chose qu'on n'a pas. Mais enfin, voilà. Donc, comment rendre gloire à Dieu? Deuxièmement, c'est une attitude, et c'est la première attitude à avoir lors d'un conflit. Vous vous souvenez de ce que c'est? Retirer la poutre. Ça commence toujours par R, donc c'est facile, hein, rendre gloire à Dieu. Retirer la poutre. C'était Matthieu 7,5 qui accompagnait cette attitude. Et pourquoi est-ce qu'on retire la poutre? C'est parce qu'on sait que celui vers qui nous allons nous repentir ne nous rejettera jamais. Jamais. On peut toujours se repentir devant Dieu. Retirer la poutre, bon, c'est aussi un R, hein, se repentir si vous voulez, fait partie de la première démarche lors d'un conflit. Qu'est-ce que je peux balayer devant ma porte si vous voulez? Ensuite, le troisième doigt qui était en fait quelque chose qui allait... Ensuite, qu'on fait souvent très, en premier, vous vous souvenez ce que c'est? Bon, rendre gloire à Dieu, retirer la poutre et redresser avec douceur. Galates 6.1, redresser avec douceur. Le but de redresser, c'est pas de dire « Oh, comme t'es mauvais !» Non, le but c'est de dire « J'aimerais que tu puisses être délivré de ce péché. » C'est mon but quand je vais reprendre. Donc c'est cette notion, redresser avec douceur. On avait vu tout ça, donc je vais très vite. Quatrième doigt, vous vous souvenez? Celui-là, il va avec, en fait. Généralement, quand on va redresser, on a celui-ci qui est avec. C'est quoi, déjà? Reconstruire par le pardon. Reconstruire par le pardon. On avait vu quelque chose d'assez époustouflant. C'est que nous sommes appelés à pardonner comme Dieu pardonne. Waouh! Alors, avant de dire comment est-ce que je vais pardonner, moi, je vous encourage à prendre juste du temps à voir comment Dieu vous pardonne. C'est tellement important. C'est tellement fondamental. Ensuite, on fera la démarche par rapport aux autres, avec les quatre promesses, etc. Et le dernier élément, le dernier R, on va l'aborder aujourd'hui, évidemment, puisqu'on arrive à la fin de cette série, c'est rechercher la réconciliation. Le texte biblique qui va avec, ah oui, avant dans le quatrième, reconstruire par le pardon, c'était Éphésiens 4:32, hein, qui nous dit justement de pardonner comme Dieu pardonne. Alors le texte aujourd'hui dans « Rechercher la réconciliation », c'est Romains 12, 21. Donc 1, 2, 2, 1, 12, 21, Romains 12, 21, qui nous dit « Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien ». Donc ça, c'est un élément fondamental qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors je ne voulais en fait faire qu'une prédication sur le sujet. Mais comme je n'ai pas 2 heures à disposition, j'ai décidé d'en faire 2. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'est la miséricorde et triompher du mal. Et la prochaine fois, je vous présenterai l'outil du dialogue de réconciliation. Voilà. Parce que si on faisait tout aujourd'hui, ça ferait beaucoup trop. Ou bien je devrais aller beaucoup plus vite. Puis ça ne serait pas très agréable. Comment rechercher continuellement la réconciliation? Ça, c'est un peu la question du jour. comment rechercher continuellement la réconciliation? C'est-à-dire être en paix avec ceux qui sont autour de nous, même ceux qui ne le veulent pas. Nous commencerons par une petite illustration. Ensuite, nous parlerons de la miséricorde, qui est un fondement pour ce sujet. Et troisièmement, nous nous tournerons vers le texte de Romains 12 pour voir des pépites, des armes quelque part. En fait, Romains 12 est un arsenal. Enfin, on va voir tout ça ensemble tout à l'heure, qui va nous aider à cheminer dans la réconciliation et de triompher du bien ou du mal, pardon, par le bien. Alors, c'est le menu de ce matin. On commence par une petite illustration. Vous vous rappelez, il y a toujours des illustrations. On a vu l'illustration de l'héritage, enfin, toutes sortes d'illustrations. Aujourd'hui, elle est un peu plus courte. Un jour, pendant sa course matinale, Ken remarque une femme non-voyante qui marchait de l'autre côté de la rue avec son chien guide, un superbe Golden Retriever. Comme il allait la dépasser, il a remarqué une voiture qui bloquait le passage à quelques pas devant eux. À ce moment-là, le chien s'est arrêté. Vous voyez le truc, hein ? Il s'est arrêté. Et doucement, il a appuyé sur la jambe de la dame pour qu'elle contourne cette voiture. Alors Ken, la personne qui a vu ça, était sûr que cette personne habituellement suivait les directives de son chien, mais ce jour-là, elle ne semblait pas lui faire confiance. Elle avait probablement fait ce parcours des centaines de fois, elle le connaissait, elle savait que là, on pouvait continuer tout droit. Et qu'il ne fallait pas faire de détour. Quelle qu'en soit la raison, elle ne voulait pas faire ce détour. Donc elle a demandé à son chien d'avancer. Et une fois de plus, qu'a fait le chien ? Il s'est appuyé contre elle pour qu'elle se détourne de cet obstacle. Une fois de plus, elle a commencé à ordonner avec colère d'avancer. Le chien a continué à s'appuyer contre elle. Et à la grande surprise de celui qui l'observait, elle a commencé à frapper le chien pour avancer. Et lui continue à s'appuyer pour qu'elle s'écarte du danger. Alors, tout en sachant qu'il allait de nouveau être frappé, sûrement le chien, en fait, continuait à la bloquer pour la faire se détourner. Elle l'a frappé encore une fois, cette fois il a gémi tellement il l'a frappé fort. Et elle a ensuite foncé devant et directement dans la voiture. En tendant la main pour toucher l'obstacle qui était devant elle, elle a tout de suite réalisé ce qui venait de se passer. Elle s'est jetée à genoux, a embrassé son chien, en lui murmurant des mots à son oreille. On ne sait pas exactement ce qu'elle lui a dit, mais sûrement des mots d'excuse. Qu'elle avait eu tort. Elle avait eu tort. Qu'elle lui a demandé pardon en faisant l'éloge de sa fidélité. Même après avoir été maltraitée. Elle avait eu tort, elle lui a sûrement demandé pardon en faisant l'éloge de sa fidélité, même après avoir été si maltraitée. Alors cette petite histoire nous met face à l'abnégation du chien et son souci du bien de l'aveugle, qui ne cherchait pas son propre intérêt et qui continuait même en fait, à éviter le danger, malgré la maltraitance. La réconciliation en toutes circonstances. Pour entrer dans le sujet de ce jour, nous allons réfléchir à ce qu'est la miséricorde et ce qu'est exercer la miséricorde. C'est notre premier point. Quelqu'un a dit, la miséricorde est un bien que chacun désire recevoir, mais que personne ne veut donner. Parce que la miséricorde a un prix. En fait, nous avons tous, sans exception, besoin de miséricorde. Parce que nous sommes tous pécheurs. Et voici une définition de ce mot qui me semble utile et pertinente. La miséricorde consiste à traiter les autres avec un esprit de douceur, de pardon et de bienveillance afin de les soulager de leur détresse et d'annuler leurs dettes. Ou encore, la miséricorde est la compassion manifestée par la patience et l'action. Alors pour bien saisir cette notion de miséricorde, cherchons à voir de quoi elle est composée. Nous allons nous pencher en fait sur trois qualités essentielles qui caractérisent la miséricorde. Et maintenant, vous allez, à partir d'aujourd'hui, avoir dans votre tête miséricorde CPP. Non, mais je vous explique. Miséricorde CPP. En fait, la compassion, le pardon et la patience font partie de la miséricorde. CPP. Compassion, pardon, patience. Premièrement, la compassion. La compassion, en fait, nous rend profondément conscients de la souffrance de l'autre et dans le désir de vouloir aider. La compassion nous incite non pas à nous attarder sur nos propres difficultés, mais à nous préoccuper de celles des autres. Je vous donne un exemple très fort qu'on voit dans la parole de Dieu. Par exemple, Joseph en prison. Est-ce qu'il s'est morfondu sur ce qu'il vivait ? Non, il s'est occupé des autres. Il s'est occupé, par exemple, de l'échanson et du pain-tier, alors que lui-même était prisonnier. La compassion. Deuxièmement, le pardon. C'est un aspect qu'on a développé, en fait, lors de la dernière prédication. Je ne vais pas le refaire ici. Mais il n'est pas inutile de souligner l'importance du pardon dans les relations, et particulièrement dans la restauration des relations. En fait, le pardon nous amène à acquitter l'offense, déclarant le fautif justifié et ne nourrissant aucun sentiment à son égard. Waouh, c'est tout un programme, hein ? Mais c'est ce que l'on désire vivre avec l'aide de Dieu. Pas par nos propres forces, on a vu la dernière fois, c'est pas possible. Mais avec les forces que Dieu donne. Comme Joseph l'a fait envers ses frères qu'il a accueillis en Égypte avec toute leur famille. Alors qu'eux, ils l'avaient vendu comme esclave. Quand leur père est décédé, vous vous souvenez de l'histoire, ils ont même eu peur que Joseph, maintenant, il commence. Mais il leur dit, mais non. Compassion, pardon, patience. La miséricorde, CPP. Compassion, pardon, patience. La patience entre particulièrement en jeu lorsque l'autre personne n'est pas ouverte à la discussion. C'est vrai, on aimerait être en paix avec quelqu'un, la personne n'est pas ouverte. Eh bien, le troisième P de la miséricorde est important, la patience. La patience lorsque cela ne se déroule pas comme on le désire, lorsque nous n'avons aucun moyen de changer les choses. Lorsque nous devons attendre que l'autre soit ouvert à la réconciliation, qu'un changement se produise en lui ou en elle. Lorsqu'il y a besoin aussi parfois du temps pour digérer. Besoin de patience. En fait, la patience permet de supporter la provocation. Elle est prête à accompagner quelqu'un qui éprouve de graves ennuis, même si la vie devient plus difficile parce qu'on veut l'accompagner. La patience, c'est également être prêt à attendre sans se révolter contre Dieu, alors que tout semble difficile et incompréhensible. On revient à Joseph. C'est lui qui nous donne un peu ces trois éléments. Hein. Joseph, est-ce qu'il comprenait ce qui se passait ? Je ne suis pas sûr, je ne pense pas. Joseph a cherché à vivre droitement, même s'il a été esclave pendant des années. Traité injustement, il a attendu patiemment le temps de Dieu. La compassion, le pardon et la patience sont trois qualités essentielles qui caractérisent la miséricorde. Mais alors, comment est-ce que la miséricorde se manifeste dans les relations ? Quelles conséquences amène-t-elle ? Nous en verrons rapidement 9 pour vous faire rendre compte qu'il y en a beaucoup. On en verra 9 et chaque fois, vous pourrez faire le lien, je le ferai souvent, mais vous pouvez faire le lien avec le fait que Jésus-Christ a vécu cela. Et en vous disant cela, j'aimerais quand même vous dire 2 choses. La première, c'est que s'il l'a vécu, il l'a vécu parfaitement et Dieu nous voit au travers de lui. Donc, on n'a plus la pression de vivre cela parfaitement. Et deuxièmement, Jésus a payé à la croix pour toutes les fois où nous ne l'avons pas vécu, pour que nous puissions en être libérés. Voilà deux choses importantes. Donc premièrement, donc la miséricorde dans les relations, la miséricorde signifie que vous vous attendez à souffrir dans vos relations et que vous l'acceptez. Vous vous attendez en fait à souffrir dans vos relations et vous l'acceptez. La miséricorde implique que je ne recule pas devant la souffrance pour garder ou restaurer une relation. Parfois, pour ne pas souffrir, on s'éloigne. La miséricorde, c'est accepter ou même s'attendre à souffrir dans nos relations et l'accepter. Nous sommes face à des pécheurs comme nous. Sommes-nous prêts à souffrir pour quelqu'un? Jésus l'a fait. Deuxièmement, la miséricorde signifie que vous acceptez de vivre avec le pauvre. Je vais expliquer. La miséricorde signifie que vous acceptez de vivre avec le pauvre. Nous ne parlons pas simplement de pauvreté économique. Cela peut être la pauvreté spirituelle, la pauvreté morale, la pauvreté sociale, la pauvreté intellectuelle, la pauvreté spirituelle. En fait, vivre la miséricorde, c'est accepter de vivre avec des personnes qui ont des manques et ne pas les laisser lorsque nous découvrons leur pauvreté. Jésus n'a pas reculé devant la pauvreté de la foi de ses disciples, par exemple. Troisièmement, la miséricorde signifie que vous évitez le favoritisme. La miséricorde signifie que vous évitez le favoritisme. Cela, en fait, implique que nous ne cherchons pas seulement des contacts avec des personnes faciles à aimer, qui aiment en retour, où on peut recevoir quelque chose. Quelqu'un dit, si nous sommes accueillants qu'envers ceux qui nous permettent de maintenir notre zone de confort, nous ne démontrons pas encore de véritable compassion. Le texte de Luc que nous avons lu tout à l'heure est assez clair. Jésus ne fait pas de distinction. Il accueille tous ceux qui viennent à lui. Quatrièmement, la miséricorde signifie que vous persévérez dans l'épreuve. Que vous persévérez dans l'épreuve. Ça fait partie de la miséricorde. Troisième P, patience, hein, c'est en lien. Jésus est allé jusqu'au bout de l'épreuve ultime pour nous donner la vie. Cinquièmement, la miséricorde met de côté ses plans de bonheur personnel. La miséricorde met de côté ses plans de bonheur personnel. En fait, c'est chercher sans arrêt ce que Dieu désire, ce qu'il désire accomplir à l'intérieur d'une relation plutôt que la promotion et l'intérêt personnel. Jésus a dit lui-même que sa nourriture, c'était son bonheur personnel. Non, je t'aurais une mauvaise version. Hein. Non, de faire la volonté de son Père. Sixièmement, la miséricorde signifie que vous vous engagez à pardonner. Dans le CPP, il y avait pardonner. Le pardon fait partie de la miséricorde. La miséricorde signifie que vous vous engagez à pardonner. Et en nous engageant à aider, nous serons les premiers à être éclaboussés par le péché de ceux que nous aidons. Et entre parenthèses, à éclabousser ceux que nous aidons. Jésus, lui, n'a éclaboussé personne. C'est vrai. Jésus a tout accompli pour que le pardon puisse nous être accordé et que nous puissions même y puiser pour le donner. Il a été celui qui a été le plus maltraité par ceux qu'il est venu aider. Septièmement, la miséricorde signifie que vous passez par-dessus les fautes mineures. Ça, on avait déjà vu une fois ensemble. Cette notion de passer par-dessus les fautes mineures. Ça vous rappelle cet enseignement de Proverbe 19:11. Hein, l'homme qui a du discernement est lent à la colère. Il met son honneur à passer sur une offense. Et si vous lisez les évangiles, et si vous lisez votre propre vie, vous vous rendez compte que Dieu n'est pas en train de vous reprendre à chaque faute. Heureusement. Huitièmement, la miséricorde ne fait pas de compromis sur le vrai et le juste. Pas de compromis sur le vrai et le juste. C'est en fait vivre le troisième R. Ah ouais, c'est quoi déjà le troisième R? Redresser avec douceur. En faisant preuve de compassion. Nous ne supprimons pas la loi de Dieu, mais nous guidons vers l'évangile libérateur. Si quelqu'un vole quelque chose, on ne dit pas « c'est pas grave de voler, c'est grave, c'est un péché, mais je vais te conduire ailleurs, vers l'évangile qui libère. » Jésus n'a jamais confondu la miséricorde avec le compromis. Et neuvièmement, plus nous manifestons de la miséricorde, plus elle devient essentielle pour nous. En fait, plus nous manifestons de la miséricorde, plus elle devient essentielle pour nous. Parce qu'en cherchant à manifester de la miséricorde aux autres, nous nous rendons compte, face au péché des autres, que nous avons de la peine à être miséricordieux à cause de notre propre égoïsme, par exemple. J'aimerais tellement qu'il ou qu'elle me prenne moins de temps. Ou notre impatience, notre inconséquence. Je demande à l'autre ce que je ne fais pas moi-même. En fait, manifester de la miséricorde nous pousse à chercher la miséricorde auprès de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle. On est en Suisse, donc on sait ce que c'est des banques. La banque de la miséricorde de Jésus-Christ est toujours ouverte et bien fournie. Il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Toujours ouverte et bien fournie. Ainsi, nous désirons vivre dans une situation réconciliée avec tous. Parce que c'est vraiment l'idée, c'est est-ce que je suis réconcilié avec tous ceux qui sont autour de moi de façon constante? Eh bien, nous sommes appelés à vivre la miséricorde de manière constante. Nous avons donc besoin d'être branchés à la miséricorde divine, sinon on va vite s'assécher. Donc j'espère que vous comprenez dans cette idée de réconciliation permanente qu'on a besoin de vivre dans la miséricorde permanente. Donc on a besoin aussi de la recevoir et d'en être conscient, d'être heureux, d'être dans cette miséricorde que Dieu nous donne pour que nous puissions, avec ses forces, avec sa grâce, la donner aussi aux autres. Il est temps maintenant de nous tourner vers le texte de Romains 12. Si vous avez votre Bible, je vous invite à la voir ouverte dans Romains 12, qui nous donne de précieux conseils dans les conflits qui nous semblent parfois même bloqués. Et donc on va aller dans ce texte de Romains 12. Il est dit en Romains 12, 21, ça c'est le texte qui nous accompagne aujourd'hui, hein, « Ne soyons pas vaincus par le mal, mais vainqueurs du mal par le bien ». C'est notre fondement pour répondre à ceux qui ne veulent pas être réconciliés malgré tous nos efforts. On ne veut pas être vaincu par le mal. On veut être vainqueur du mal par le bien. Pourquoi, après avoir cherché à vivre l'artisan de paix, en se donnant la peine de rendre gloire à Dieu à chaque instant, de retirer notre poutre de son œil en utilisant les 7 A de la repentance qui libère? Ah, vous vous souvenez des 7 A? Non, c'est pas facile de s'en souvenir, hein. Ça je comprends. Alors je vous ai fait un petit marque-page que vous pourrez utiliser, il y a le 7A ici derrière, ça pourra vous aider. Ouais. Donc le premier c'était aller vers chaque personne impliquée, abandonner les si mais peut-être, avouer spécifiquement, admettre la blessure infligée, assumer les conséquences, améliorer le comportement et appeler au pardon sans pression. Hein, ça c'était les 7A de la repentance qui libère. Mais après avoir vécu tout cela, cherchant à rendre gloire à Dieu, l'autre, il veut toujours pas. J'ai cherché à redresser l'autre avec douceur, en cherchant sincèrement le bien de l'autre. J'ai cherché à reconstruire par le pardon, en étant prêt à donner ces 4 promesses qu'on avait vues ensemble. Souvenez de ces 4 promesses, elles sont aussi ici, si jamais. Avoir des pensées purifiées, des paroles bienveillantes, un respect répandu et une relation en restauration. Ça, c'est les 4 promesses de pardon qu'on avait vues ensemble. J'ai tout fait ça. Pourquoi cette personne ne veut-elle pas vivre la réconciliation? J'ai utilisé tous les outils que la Bible me donne. Est-ce qu'elle a atteint ses limites? Est-ce qu'il faut maintenant la fermer et se tourner vers d'autres moyens pour la réconciliation? Eh bien, absolument pas. C'est justement le moment de ne pas la fermer. Parce que la parole de Dieu reste toujours le seul guide fiable pour la résolution des conflits. Et un chrétien sait que lorsque nous ne savons plus quoi faire, ce qu'il ne faut en tout cas pas faire, c'est fermer la parole de Dieu. Cela ne signifie pas que tout va se résoudre facilement. Pas besoin de vous l'expliquer, je pense que vous le savez dans notre monde. Cela signifie que nous ne devons pas nous concentrer premièrement sur le résultat, mais sur notre fidélité à Dieu. Ça, je vais le répéter, c'est très important. Cela signifie que nous ne devons pas nous concentrer premièrement sur le résultat, notre désir d'une réconciliation. C'est très bien de l'avoir, mais nous ne nous concentrons pas sur cela. Nous nous concentrons sur notre fidélité à Dieu. Car nous ne pouvons pas maîtriser ni les circonstances, ni le cœur de celui ou de celle qui est en face de nous. Mais sachez que Dieu nous donne des armes divines face à celui qui ne veut pas être réconcilié. Et en fait, ces armes, ce sont des armes spirituelles. 2 Corinthiens 10, 4 nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. » Et l'arme que Dieu nous a donnée, si on veut la résumer, c'est l'évangile de Jésus-Christ et l'amour qui se manifeste de plusieurs manières, qui découle de cet évangile. Vous savez, dans Romains 12, les versets 9 à 21 qu'on a entendu tout à l'heure, nous trouvons 26 facettes de l'amour. Donc si on vous demande quel texte parle de l'amour dans la Bible, vous allez dire 1 Corinthiens 13. C'est très bien. Mais Romains 12 est aussi un texte qui parle d'amour. Peut-être même encore plus, mais je ne fais pas de concurrence, les deux sont très bien. Et je vous propose en fait d'en voir 6 sur les 26. On ne verra pas les 26 aujourd'hui, vous pouvez le relire vous-même. Mais on en verra 6 dans les versets 14 à 21, et je les appellerai les armes de l'amour. Je ne vais pas non plus faire un grand commentaire, on va se laisser imprégné par cette parole. C'est cette parole qui va nous imprégner maintenant pour pouvoir saisir qu'est-ce que Dieu veut nous faire vivre, même dans des moments où c'est difficile. Et la première arme au verset 14, je l'ai appelée « maîtriser notre langue ». Maîtriser notre langue. Vous avez vu le verset 14, il est dit « bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas ». Et vous savez quoi? L'arme de la parole de bonté a terrassé plus d'un cœur dur. Passons à la suivante. Verset 16, que j'intitule « Être humble et chercher conseil ». Être humble et chercher conseil. Verset 16, il est dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Celui qui se croit sage à ses propres yeux ne demandera jamais conseil. Et sans conseil, il se trompe souvent. Et malheureusement, souvent empire la situation. Vous savez, l'humilité est une arme qui permet d'éviter de nombreux fardeaux. Je donne un exemple, il faut que je fasse gaffe de ne pas trop m'éloigner, mais je donne un exemple ici que je trouve assez intéressant. Des fois, on a cette idée, c'est moi qui dois dire à mon conjoint des choses qu'il doit comprendre. Ça m'arrive. C'est orgueilleux. On doit plutôt se dire, je désire que mon conjoint comprenne cette notion qui vient de la parole, qui est juste, c'est vrai. Mais si, même si ce n'est pas moi qui le lui dis, et en plus elle le comprend au moment où ce n'est pas moi qui le dis, je dois en être heureux. Si je suis énervé parce que moi je l'ai dit 52 fois, que l'autre l'a dit une fois, puis qu'en fait elle l'a compris quand l'autre l'a dit, c'est peut-être un problème d'orgueil. L'humilité, c'est de dire, mon but, c'est pas que ça soit moi qui le dise. Mon but, c'est la personne qui le reçoive. Vous voyez la différence? Et l'humilité est une arme qui permet d'éviter de nombreux fardeaux. Commence à comprendre aussi. Parce que l'orgueil diminue ou annule, saviez ça? Que l'orgueil annule l'impact du missile de l'amour. Des fois, on veut capter les missiles pour pas qu'ils arrivent. Ben, les missiles de l'amour, si vous les captez, ben, mettez plein d'orgueil, c'est parfait. Arme suivante, verset 17. Continuez à faire ce qui est juste. continuez à faire ce qui est juste. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et là, je vais vous donner un défi. Vous êtes prêts? Alors, nous n'avons pas un seul texte biblique qui nous indique que nous devons pécher pour plaire à Dieu. Le défi, c'est de me montrer un texte qui démontre l'inverse de ce que je viens de dire. Mais j'ose affirmer que nous n'avons pas un seul texte biblique qui nous indique que nous devons pécher pour plaire à Dieu. Jamais. Dieu ne vous demandera jamais de pécher pour lui plaire. L'arme utilisée, c'est « fais le bien, ce qui est juste selon Dieu, en tout temps, quelles que soient les circonstances. » Arme suivante au verset 18. J'ai dit, on s'imprègne un peu de ce texte ici. Hein, verset 18, je l'appelle « reconnaître ses limites ». Reconnaître ses limites. Aussi dans la recherche de réconciliation, justement. Hein, il est dit au verset 18, un texte que vous pouvez apprendre par cœur, hein, « s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si vous avez tout fait ce qui est en votre pouvoir pour vivre la réconciliation et que l'autre ne veut pas, il ne faut pas insister. » Désolé, on aimerait bien vous dire « insister jusqu'à ce qu'on y arrive ». Non, soyez fidèles. Comptez sur Dieu. Ne cherchons pas à faire l'œuvre de Dieu à sa place. C'est dangereux de vouloir changer quelqu'un à la place de Dieu. Par contre, c'est vrai, s'il y a une ouverture, un changement de circonstance, eh bien, il est important de continuer à faire tout ce qui est possible pour parvenir à la réconciliation. Évidemment, c'est ce qu'on désire. Ce désir, on peut le garder, mais ce désir ne doit pas être quelque chose qui va imposer quelque chose à l'autre. C'est nous-mêmes qui voulons être prêts. Mais tant que c'est figé, il faut simplement vivre dans la miséricorde CPP. Ah, maintenant, vous savez ce que c'est. Hein? La miséricorde CPP, c'est la miséricorde avec la compassion, pardon, patience. Et remettre cette situation entre les mains de Dieu. Dieu agit. Dieu agit et vous avez peut-être des témoignages qui peuvent vous démontrer, je ne vais pas le prendre maintenant, mais démontrer que parfois ce temps de patience, Dieu l'utilise pour que d'autres puissent, c'est vrai, avancer, mais très généralement, nous avançons aussi et changeons dans notre manière d'aborder les choses, d'une manière d'être encore plus proche de la parole. En tous les cas, même si une situation est bloquée, il faut laisser à Dieu la vengeance. C'est le verset suivant qu'il souligne, verset 19. Laissez à Dieu la vengeance. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Laissons le jugement à Dieu, parce que nous n'avons pas la capacité d'effectuer le jugement du cœur. Alors cela ne signifie pas que, par exemple, les autorités civiles ne doivent pas exercer le droit et appliquer les peines. Ça, c'est faire justice. Et ça vient de Dieu, en fait. C'est Dieu qui a mis ça en place. Et cela n'enlève pas non plus la responsabilité aux parents de corriger leurs enfants afin qu'ils soient conduits dans la voie de Dieu. C'est leur rôle. Ce qui est dit ici, c'est de ne pas nous venger des offenses qu'on nous a faites. Et la suite nous parle de l'arme suprême. Vous connaissez l'arme suprême ? L'arme suprême, donc j'intitule ça « Utiliser l'arme suprême », versets 20 et 21. « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » L'arme suprême, c'est un amour volontaire, focalisé sur l'autre, même face à un ennemi. Comme le disait C.S. Lewis, il disait ceci, « Ne perdez pas de temps à savoir si vous aimez votre prochain. Perdez pas de temps à savoir si vous aimez votre prochain. Agissez comme si c'était le cas. » Et dès que nous faisons cela, nous découvrons l'un des plus grands secrets. Lorsque vous vous comportez comme si vous aimiez l'autre, vous arrivez enfin à l'aimer. Alors, concernant les charbons ardents, ça, c'est quelque chose dans ce texte, c'est charbon ardent. Je pense que vous n'avez pas plus beaucoup d'endroits à la maison où vous chauffez à bois. Enfin, peut-être le petit poêle d'appoint. Enfin, peut-être maintenant, d'ailleurs. Mais on n'utilise plus beaucoup de charbon, c'est vrai, ici. Mais en fait, il est intéressant de voir deux éléments, deux choses. Parce qu'en fait, cette image ici nous donne deux éléments. Le premier, c'est qu'une coutume au Moyen-Orient consistait à transporter du charbon sur sa tête pour en apporter à quelqu'un dont le feu s'était éteint. Cela illustre donc le désir du bien de l'autre. Et c'est Proverbe 25, 21-22 qui l'indique aussi. Donc chaque fois, il y a un texte biblique qui le souligne. Donc c'est cette notion de se dire, mais l'autre, quelque part, son feu, il s'est éteint. Donc notre but, c'est qu'il puisse le réallumer. Donc on utilise l'arme de l'amour pour qu'il puisse réallumer son feu, vous voyez. Donc ça, c'est un des aspects qui est donné par cette illustration. Moi, je l'aime bien, je le trouve beau. Le deuxième aspect, c'est les psaumes qui nous le rapportent, dans le psaume 120. Les psaumes nous rapportent que les charbons ardents étaient utilisés par les soldats pour combattre leurs ennemis. Cela illustre que l'amour est une arme qui peut venir à bout des plus déterminés. Ça, c'est le deuxième aspect. Mais ces deux aspects font partie de l'illustration qui est donnée ici. À la fin, l'amour actif envers un ennemi, en fait, vous protégera aussi de la défaite spirituelle pour vous, en fait. Pourquoi ? Parce que la défaite spirituelle, vous savez par quoi elle est marquée ? Elle est marquée par la colère, l'amertume, la soif de revanche. Si nous utilisons les armes que Dieu nous donne dans sa parole, nous ne serons pas dans cette défaite spirituelle. Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas parfois des découragements. Je n'ai pas dit que parfois ça serait difficile. C'est vrai. Ce n'est pas des défaites spirituelles d'être dans le découragement et que ça soit difficile. C'est des moments dans la vie qui arrivent où on a besoin aussi des uns et des autres pour nous encourager et nous soutenir. Et dans certains cas, votre amour actif et déterminé pour votre opposant sera utilisé par Dieu pour amener cette personne à la repentance. J'ai lu toutes sortes d'histoires de personnes qui étaient prêtes à se donner pour l'autre, une personne qui ne connaissait pas l'évangile, qui n'en voulait pas, qui s'en moquait. Et le fait que cette personne était toujours fidèle pour ce que l'autre avait aussi besoin, un jour dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas continuer ma vie comme ça. Je dois aller vers celui qui donne la force à cette personne de continuer à me servir alors que je suis si terrible. Nous n'avons pas d'assurance, mes chers frères et sœurs, que l'autre va changer. Mais nous avons une assurance que Dieu va nous donner la force, que Dieu va nous donner d'être capable de vivre ces choses, ou parfois de se protéger. Lors du cours de formation biblique, je parle de ces sujets, et une jeune fille a donné ce témoignage que je trouvais intéressant, je vous le partage. Elle disait qu'une collègue ne l'aimait pas du tout. Mais pas du tout. Après, vous pouvez mettre tout ce qui est derrière, hein. Et en fait, cette jeune fille a cherché simplement à l'aimer. Elle a essayé de l'aimer, sans répondre aux provocations. Chercher chaque jour à, voilà, je vais, avec l'aide de Dieu, ne pas le faire. Et après trois ans, cette collègue est venue lui demander pardon devant tous. En larmes, elle a compris la puissance, elle a reconnu la puissance de l'amour. Oh, ça m'a réjoui, je me dis, c'est magnifique. Une jeune personne déjà dans sa vie se dit « je veux vivre ça » et elle a même déjà vu un résultat. Je vous ai dit, le résultat ne nous appartient pas, mais c'est la fidélité. En tous les cas, l'amour amène toujours à une action plus noble et digne de Dieu que la vengeance. Et j'aimerais terminer ce point par une illustration d'un récit vécu qui montre jusqu'où peut aller l'amour de personnes transformées par Dieu. Donc, c'est l'histoire de Ernest Gordon, je ne sais pas si quelqu'un le connaît, qui fut capturé par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale et qui fut forcé, avec d'autres prisonniers anglais, à endurer des années de mauvais traitements. Face à la famine, à la maladie dans les camps, à la brutalité des gardiens qui ont tué d'ailleurs un grand nombre de ses camarades, Gordon survécut et devient un puissant exemple de triomphe de l'amour chrétien sur la perversité humaine. Voici un exemple. Cet amour brilla particulièrement un jour lorsque Gordon et ses prisonniers, donc ses collègues prisonniers, s'approchèrent d'un train rempli de soldats japonais blessés qui était transporté vers Bangkok. Donc lui-même était prisonnier des Japonais. Donc un convoi plein de Japonais blessés. Voici comment Gordon décrit l'œuvre de grâce de Dieu, je vous lis. Ils étaient là, sans aucune assistance médicale. Leurs uniformes étaient tachés de boue, de sang et d'excréments. Leurs blessures enflammées et pleines et de plus grouillées d'asticots. Nous pouvions comprendre maintenant pourquoi les Japonais étaient si cruels envers leurs prisonniers s'ils ne prenaient pas soin de leurs propres blessés. Pourquoi prendraient-ils soin de nous ? Ces hommes blessés nous regardèrent esseulés alors qu'ils s'asseyaient, leur tête s'appuyant sur les wagons, attendant avec fatalité leur mort. Ils étaient les détritus de la guerre. Ils ne savaient où aller et personne ne prenait soin d'eux. Sans un mot, la majorité des officiers prisonniers qui étaient dans ma section débouclèrent leur paquetage, prirent une partie de leur ration, un chiffon d'eau de la cantine à la main. Ils s'approchèrent des Japonais pour essayer de les aider. Nos gardiens tentèrent de nous dissuader, mais nous les avons ignorés et nous nous sommes agenouillés près de nos ennemis pour leur donner de la nourriture et de l'eau, pour nettoyer et bander leurs plaies, pour sourire et leur donner du réconfort. Après notre départ, j'observais mes camarades avec émerveillement. 18 mois auparavant, ils se seraient lancés dans la destruction de ceux qui nous avaient capturés s'ils étaient tombés entre nos mains. Mais maintenant, ces mêmes hommes pansaient les plaies de leurs ennemis. Nous avons expérimenté un moment de grâce, là, dans ce wagon, taché de sang. Dieu a brisé nos barrières de préjugés et nous a donné la volonté d'obéir à son commandement. Tu aimeras ton prochain. La majorité, j'aimerais dire, l'entièreté d'entre nous ne vivront jamais cet extrême de gouffre. C'est vrai où le gouffre pour aimer ses ennemis est si grand. Ou comme Corrie Ten Boom dont on a parlé la dernière fois. Lorsque nous sommes face au défi d'aimer quelqu'un qui nous fait du mal, rappelons-nous comme Gordon et Corrie le faisaient, rappelons-nous notre exemple suprême, Jésus-Christ, qui même mis en croix, demandait à Dieu de pardonner à ses bourreaux. Vous rappelez Romains 12, 21 ? Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Nous y mettrons tous nos efforts, toutes nos forces, sachant que la victoire est en Christ et que tout vient de lui et que nous allons chercher les forces auprès de lui et même auprès de nos frères et sœurs dans la foi. Prie pour moi. Nous ne vivons pas pour le résultat que nous ne maîtrisons pas. Nous vivons pour la fidélité que nous sommes appelés à vivre. Je me prêche en même temps qu'à vous, hein. Vivons non pas pour le résultat, ça appartient à Dieu. Nous le désirons ardemment, c'est vrai. Vivons pour la fidélité que nous sommes appelés à vivre. Nous arrivons à la conclusion. Nous avons vu ensemble aujourd'hui que si nous voulons être dans une réconciliation permanente, nous avons besoin de deux ingrédients principaux. D'exercer la miséricorde qui a pour qualité essentielle CPP. Alors là, il faut réfléchir, hein. Compassion, pardon, patience. Et deuxième élément, triompher du mal par le bien en cherchant à nous venger, entre guillemets, de tout le mal qu'on nous fait en aimant encore plus. L'amour est l'arme suprême. Et notre arsenal, c'est d'aller chercher des missiles d'amour. Quand tu te retrouveras cette semaine face à quelqu'un qui t'en veut, rappelle-toi de la compassion, du pardon, de la patience que Dieu a envers toi, dans lesquelles tu vas aussi puiser pour l'avoir envers l'autre. Tu vas dire, Seigneur, c'est dur. Oui, on peut lui dire ça. Mais il va aussi nous donner cette grâce et cette force pour manifester l'évangile de Jésus-Christ qui nous libère justement de tout ce désir de vengeance. La prochaine fois, nous verrons un outil pour le dialogue de réconciliation. Nous suivrons une femme de la Bible fabuleuse qui nous donnera un bel exemple de la manière d'utiliser cet outil. Et je nous encourage à revenir régulièrement à la main de l'artisan de paix, afin de nous imprégner, afin de vivre l'évangile au quotidien. Que Dieu nous vienne en aide pour rendre gloire à Dieu à tout instant, retirer la poutre de notre œil, redresser avec douceur, cherchant le bien de l'autre, reconstruire par le pardon et rechercher continuellement la réconciliation. Prions. Éternel notre Dieu, toute la Bible nous parle de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu sur cette terre pour que nous soyons réconciliés avec toi. J'aimerais te prier, Seigneur, que nous puissions déjà saisir cela d'une manière tellement puissante, que nous puissions saisir la miséricorde qui est derrière cette œuvre extraordinaire, que nous puissions saisir l'amour, quelque part toutes les armes d'amour qui sont derrière cette œuvre extraordinaire, que nous puissions saisir l'évangile pour nous qui en avons besoin, chacun, de telle manière que nous désirons non seulement le vivre nous-mêmes, mais le partager autour de nous. Éternel, nous avons besoin de tes forces. Nous avons besoin d'être remplis de ta compassion, de ton pardon, de ta patience, de ta sagesse, de ton amour. Et j'aimerais te dire merci parce que chaque fois que tu nous as permis déjà de le vivre, de le donner, eh bien nous n'avons rien perdu en le donnant. Au contraire, nous en avons été enrichis. Permets, Seigneur, que nous devenions riches en amour et en miséricorde, en donnant toujours plus. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.